Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dimanche prochain, ce sera le dimanche des rameaux. La foule acclamera Jésus alors qu'il entrera dans Jérusalem, espérant de lui qu'il est le Messie, le libérateur d'Israël. Et pourtant, rien ne se passera comme attendu. À l'image un peu des béatitudes, cette charte de la vie chrétienne, selon l'expression de mon invité de ce matin, charte pleine de paradoxes apparents, charte folle, et pourtant rien moins que clé de la vie éternelle. Frère Jean-Claude, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Nous vous retrouvons donc pour la cinquième fois. Vous nous faites un beau cadeau. Je rappelle donc que vous êtes franciscain, cofondateur donc de la communauté de l'agneau. Comment vous présenteriez la communauté de l'agneau en quelques mots pour ceux qui n'ont pas écouté les émissions précédentes ?
La vie contemplative au milieu des pauvres pour s'adresser à tous les hommes. Contemplative, c'est Dieu en premier. Dieu, premier servi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et puis, second commandement, tu aimeras ton prochain. Et je pense que pour aimer tout le prochain, il faut viser les pauvres parce qu'ils ne sont pas riches. Et que les riches, s'ils regardent bien qui ils sont, découvrent qu'ils sont pauvres. Le pauvre, la pauvreté, c'est le caractère universel de l'humanité qui n'est pas Dieu. Voilà un petit peu comment je pourrais résumer. Vie contemplative au milieu des pauvres, c'est-à-dire au cœur de l'humanité.
Voilà, et c'est une émission qui est enregistrée donc depuis Plavilla, pour rappel, dans l'Aude, à une bonne heure au sud de Toulouse, dans des collines, où il y a donc, dans une grande propriété qui vous a été prêtée, des petits ermitages aux quatre coins de la propriété. C'est assez impressionnant, on croit sous le temps des frères et des sœurs qui ont tout lâché et qui vivent, vous me disiez que c'est quand même 5 heures de prière par jour, qui vivent dans la solitude et ils sont absolument rayonnants. Bref, il y a ici quelque chose qui parle peut-être un petit peu de ces béatitudes. Alors aujourd'hui, cinquième émission donc sur les béatitudes, cette grande série de carême avec vous. Nous allons prendre la cinquième et la sixième béatitude ensemble, c'est bien cela. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu, heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu. Même question qu'à chaque fois. Comment vous nous présenteriez, vous introduiriez ces deux béatitudes que vous avez choisi de regrouper ?
D'abord, je veux te remercier, Emmanuel, de la manière dont tu m'aides dans ce travail, de dire le comme je peux, le cœur de ma foi, la raison de ma vie et de mon existence. Et je te remercie beaucoup. Bon. Alors, à ta question,
présentation de ces deux béatitudes, oui. Explicitation.
Alors, la béatitude sur les cœurs purs, le cœur pur, c'est un cœur qui n'est pas troublé. Et je vois très bien ce que ça veut dire maintenant. C'est un cœur qui s'attache à Dieu totalement. Et le cœur divisé est celui qui est partagé entre Dieu et lui-même. Et le cœur pur, d'un trait unique, il est attaché à Dieu. Voilà pour le cœur pur.
Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas avoir de cœur pur si l'on n'est pas croyant ou si. Est-ce que l'on peut avoir un cœur pur sans connaître Dieu ?
Puisque le cœur pur, c'est un cœur sans partage. J'ai rencontré beaucoup de communistes. Je ne peux pas dire que je sois un ami du marxisme, ni de l'Empire soviétique, pas du tout, à cause de la persécution, puis aussi à cause de la catastrophe où ils ont terminé. Mais le nombre de communistes, de petits communistes que j'ai rencontrés, que j'ai aimés, m'ont vraiment laissé l'impression de cœur pur, c'est-à-dire de gens qui étaient épris de la justice et de la vérité pour leurs frères, et qui vivaient conformément à cela. Pour moi, ces hommes étaient des cœurs purs qui m'ont beaucoup appris. Je donne un exemple. Dans une des petites églises de village où j'allais, qui était à 9-10 km de Vézelay, dans un petit village qui était construit au creux d'un vallon, et l'église était à mi-pente. Et il fallait évidemment tenir la clé de l'église et puis la tenir un peu propre. Et c'était un petit ménage communiste, très pauvre, qui me rendait ce service. Et ça m'a toujours étonnamment étonné de sentir cela, cette amitié qu'il y avait entre nous et la pureté de leur cœur. Ils étaient attachés au bien tel qu'ils le voyaient. Alors, bien que l'Église, ils le savaient bien, ne correspondait pas du tout à leur idéal, ils étaient capables de rendre ce service parce qu'ils avaient dans le fond de leur être ce désir de servir. Et pour moi, c'est ça le cœur pur. Ils n'étaient pas divisés entre, comme tout le monde bien sûr, mais au fin fond de leur vie, il y avait cela. Mon cœur s'unifie autour du service, de l'appel à la justice. Et le cœur divisé, au contraire, c'est l'homme qui va s'occuper de ses biens, qui va prier un petit peu Dieu, qui va être un petit peu au parti, qui va être complètement divisé en lui-même. Et le cœur pur, c'est au fond un cœur simple.
Alors voilà. Ça, c'est pour la présentation donc de cette première des deux béatitudes que vous avez choisi de regrouper. Qu'est-ce que vous diriez pour introduction de la seconde ? Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Alors, la paix, quand on l'écoute dans l'Ancien Testament et donc dans le Nouveau ensuite, c'est la plénitude de tous les biens, le shalom des Hébreux, le salut des Hébreux, le salam des musulmans, c'est la même chose. Je te souhaite tous les biens en plénitude. Et on voit très bien que lorsqu'on fait des vœux, et la période des vœux n'est pas si loin que ça, de nous, eh bien, on sent très bien que dans son cœur, à ceux que l'on aime, ou à ceux qu'on doit aimer, on souhaite nécessairement tous les biens. On ne peut pas dire, je souhaite que tu aies une bonne santé, puis si tu travailles, ça ne marche pas, c'est pas grave. Et puis si ta femme vige le camp, c'est pas grave non plus, pourvu que tu aies une bonne santé. On ne peut pas dire ça. Quand on dit shalom, quand on dit la paix, c'est forcément la plénitude de tous les biens. Et c'est ce que signifie le souhait de paix. Il remplit évidemment l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament. Il ne peut pas en être autrement. Dieu est tout le bien, le souverain bien, le bien total, le bien universel, de qui vient tout bien, sans qu'il n'ait aucun bien, pour reprendre la litanie de saint François. Eh bien, ce Dieu qui est tout le bien veut se communiquer à nous, et la paix qui est cette entrée en nous de tous les biens, de Dieu lui-même, c'est ça la paix. Et souhaiter la paix, c'est inviter quelqu'un à recevoir cette paix qui vient d'ailleurs, et à la laisser le remplir et le combler de la plénitude du bonheur.
Alors même question, pour ceux qui ont suivi les quatre émissions précédentes, peut-être certains sont-ils enchantés de cette manière un petit peu, comment dire, très, très simple de procéder, d'autres exaspérés. Pour ceux qui sont exaspérés, nous en sommes désolés. Mais quelle prémisse dans l'Ancien Testament à ces béatitudes, et quel accomplissement ou révélation Jésus apporte-t-il ? Alors commençons peut-être par les cœurs purs.
Alors, les cœurs purs, quand Jésus dit « Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu », pratiquement, il cite l'Ancien Testament. Alors, je prends le psaume 11. « Les cœurs purs verront la face de Dieu. Et qui gravira la montagne du Seigneur ? Qui pourra se tenir au lieu saint ? L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, qui n'a pas pris en vain le nom de Dieu et n'a pas juré pour le mensonge. » Donc ça revient un petit peu à ce que je disais avant. Mais ce qui est très très frappant, c'est que Jésus, ici, utilise les paroles de l'Ancien Testament pour dire sa propre pensée. Premièrement, parce qu'il est un homme de l'Ancien Testament, il est juif à fond. Et pour moi, Jésus est le juif maximum, l'homme maximum. Et quand il reprend les paroles de l'Ancien Testament, c'est pour les mener à leur terme, comme il le dit lui-même. On l'a déjà cité cette phrase, mais elle est tellement importante. « Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. » je suis venu l'accomplir. Et quand Jésus prend à son propre compte cette parole de l'Ancien Testament, du psaume, « Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu », eh bien, il nous annonce que c'est lui, en sa personne, qui mène à la perfection ce souhait si profond du psalmiste. C'est Jésus qui accomplit en plénitude cette parole de l'Ancien Testament.
Mais qu'est-ce qu'il vient, comment dire, révéler de plus sur ce sujet ? Vous me disiez que la parole qu'il adresse à son père est pour ça, enfin, est probablement la clé.
Alors, moi, j'ai toujours la même réponse. Hein. Qu'a apporté Jésus ? Et c'est stupéfiant, hein. Mais quand je l'ai entendu, ce mot, je vous l'ai dit, hein, j'ai exulté de joie en me disant, mon Dieu, mais c'est ça la vérité, c'est ça que j'ai toujours cherché. Qu'a apporté Jésus ? Il a apporté Dieu. Alors, quand il nous dit ici, bienheureux les cœurs purs, c'est une parole divine. Elle c'était déjà dans l'Ancien Testament la parole de Dieu, mais ici, c'est Dieu lui-même qui le dit. Et le disant, il l'accomplit, parce que Dieu est celui qui dit et c'est fait, que la lumière soit et la lumière fut. Et quand Jésus nous dit, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu, en même temps, il accomplit pleinement cette parole. Et dans l'Ancien Testament, c'était comme une attente, comme ça l'est dans notre propre cœur. Hein, mais en Jésus, cette parole atteint une plénitude qui peut indépassable. Oui, c'est Dieu qui le dit, c'est Dieu qui le vit, c'est Dieu qui le fait. Et comment je passerai, moi, au cœur pur ? Eh bien, en recevant Dieu dans mon cœur, avec la fameuse phrase que je répète encore, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. » Et alors, ça veut dire quoi ? Jésus qui vit en moi. Eh bien, que la plénitude divine m'habite, qu'elle se donne à moi si je la reçois. Je suis tout à fait libre de ne pas la recevoir. Mais si je m'ouvre à cela, l'accomplissement est fait, puisque c'est Jésus en moi qui est le cœur pur.
Même question pour les artisans de paix. Voilà, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on a que nous dit l'Ancien Testament de cette béatitude et qu'est-ce que Jésus vient révéler ?
Dans l'Ancien Testament, les pacifiques, je l'ai dit, hein, ce sont les pauvres de Yahvé, ceux qui sont ouverts à plus grand qu'eux, ceux qui décident que leur raison ne peut pas tout contenir, ni d'eux-mêmes, ni du monde, ni de Dieu. Et peut-être que le mot de Pascal ici est éclairant. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et je crois que le vœu de paix, je disais tout à l'heure qu'il est universel, mais en Jésus, il trouve son plein accomplissement. Jésus, à mes yeux, est la paix de Dieu en sa personne. Avec ce texte très étonnant, en sa personne, Jésus a tué la haine. Voilà comment Jésus est auteur de la paix. À sa croix, Jésus a crucifié la haine et la paix vient de ce que la haine meurt à l'intérieur de mon cœur. Ce que je racontais l'autre jour, là, je peux le répéter ici, comment sentant en moi la violence contre un de mes frères et suppliant le Seigneur de m'en délivrer, je le suppliais, et tout un jour, je n'ai eu qu'à suivre ma main qui m'entraînait à faire un geste fraternel d'amitié et d'affection fraternelle. Et j'ai dû reconnaître, et ça a été un moment capital de ma vie, « Ah bon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui fait cela en moi. » Si bien que Jésus qui apporte Dieu apporte l'accomplissement et la plénitude de la paix. D'ailleurs, nous chantons trois fois à chaque messe, « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. »
Pour finir, même question rituelle, quelle urgence y a-t-il, selon vous, aujourd'hui, à vivre ou à entrer dans ces deux béatitudes ?
Alors là, je prends quelque chose à Benoît XVI. Benoît XVI réfléchit sur la pureté du cœur. Et il voit ce que je viens de dire. Hein. De quoi s'agit-il ? de laisser la présence de Dieu nous envahir. Et la pureté du cœur nous rend amoureux de Dieu, amoureux des pauvres, amoureux de tous les hommes, et mystérieusement, mais réellement, amoureux de nos ennemis. Alors on va me dire, mais c'est vrai pour toi ça, Jean-Claude? Oui, je suis culotté, je suis peut-être fou de dire ça, parce qu'on me prouvera évidemment, je suis complètement d'accord, qu'il y a mille moments dans ma vie où c'est le contraire, où j'ai peur de mes ennemis et où je leur ai souhaité du mal. Mais cette expérience que j'ai faite, ah oui, Dieu en moi peut aimer son ennemi comme l'a fait Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme quand il n'a pas résisté aux accusations de Caïphe et tu le Fils de Dieu, il pouvait très très bien atténuer sa réponse. Au contraire, tu l'as dit, je le suis. Donc voilà, Jésus, au fond de lui-même, est totalement attaché à Dieu, et celui qui le reçoit éprouve dans son cœur le même attachement, jusqu'à aimer ses ennemis. Alors, comment je le sens ? Je vois très très bien qui sont mes ennemis.
C'est là l'urgence, en tout cas, pour répondre à la question ?
Oui, tout à fait. C'est qu'il est urgent, si on ne veut pas que le monde s'effondre, il est urgent que l'amour des ennemis circule parmi le plus d'hommes possible. Parce que quand la haine des ennemis devient farouche, c'est les destructions mutuelles et qui n'ont aucune espèce de limite. Et avec la puissance nucléaire qui, je crois, actuellement, de détruire je ne sais pas combien de fois la Terre avec toutes les têtes nucléaires cachées dans différents coins, on se rend bien compte que si l'amour de l'ennemi prévaut, ça peut mettre un terme à l'histoire humaine sur la planète, hein. Pas l'histoire que Dieu fait, mais ça pourrait finir comme ça entre les hommes. Donc je me dis, tous ceux qui aiment leurs ennemis, si peu soient-ils, ils mettent un frein à cette puissance destructrice. Et un réalisateur italien a dit au pape François, le mot en absolu le plus étonnant et le plus fort de toutes les paroles humaines, c'est « aimez vos ennemis ». Et quand j'ai entendu cela, immédiatement, j'ai coïncidé à cette phrase comme si elle jaillissait de mon propre cœur. Ah oui, et mes ennemis, mais c'est fou ce que je le veux. Et quand je me sens totalement opposé à ce que font, par exemple, nos gouvernants dans bien des domaines aujourd'hui, je sens que mon opposition ne jaillit pas d'un ressentiment et d'une haine, mais d'une espèce de pitié. Mais mon Dieu, mais comment en êtes-vous à vous haïr, à nous haïr, à vouloir nous détruire, alors que nous pouvons nous aimer? Et je reprends ça, cette image que je vous ai donnée l'autre jour. Ces deux soldats qui, à la guerre de 14, s'enfourchent mutuellement au même moment de leur baïonnette et tombent sur le côté, nez à nez, et que là, ils se regardent. Que nous est-il arrivé? Nous ne l'avions pas voulu. Alors, cette inimitié qui aboutit à ces situations effroyables et absurdes, je sens pour moi que c'est ça, le vrai visage de la paix.
On va faire une première pause, frère Jean-Claude, et on vous retrouve tout de suite après pour, je le rappelle, dans une deuxième partie, prendre quelques exemples tirés dans la vie des saints, dans votre vie ou dans la vie communautaire, pour trouver à illustrer ces deux béatitudes.
Vibrant illumin.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu, heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu. Pour nous aider à entrer dans ces deux béatitudes, ce matin nous retrouvons le frère Jean-Claude, franciscain, cofondateur de la communauté de l'Agneau. Voilà frère Jean-Claude qui nous accompagne tous les lundis de ce carême dans le cadre de l'émission Vivante Église pour nous aider à rentrer dans ces béatitudes. J'avais peut-être une question avant qu'on parle des exemples, frère Jean-Claude. Pour les auditeurs qui, en dépit de ou malgré les différentes émissions faites avec vous, continuent à voir dans les béatitudes vraiment un lieu de difficulté, ils ont du mal à entrer dedans. Vous leur diriez que ce n'est pas si grave que ça, qu'il faut juste persévérer. Enfin, c'est normal de trouver ces béatitudes difficiles.
Oui, c'est rudement normal de les trouver difficiles. Et je crois qu'il faut dire impossible. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est une constante des évangiles et de toutes les écritures. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les béatitudes, c'est à vrai dire le portrait de Jésus par lui-même. C'est son autoportrait. Jésus est Dieu. Alors forcément, quand je vais m'appliquer ce portrait sur mon visage, ça ne va pas très très bien marcher. On va bien sentir, ah bon, oui, ça c'est pas très ressemblant, Jésus et Jean-Claude. Il y a un tel décalage. Mais, toujours les mêmes thèmes, hein. Ce que dit saint Paul est très clair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et quand dit-il cela? Quand précisément il lui arrive de faire quelque chose qui lui paraissait complètement impossible. Et c'est très très net que pour cet observateur très rigoureux de la loi, le passage à Jésus-Christ a été quelque chose d'humainement impossible. Et alors il l'éprouve tout du long de sa vie, et quand il voit quelque bien sortir de lui, il l'attribue à Dieu. Et on a la même pensée chez saint François, Dieu de qui vient tout bien sans qu'il n'ait aucun bien. Et François, dont l'âme est débordante de tendresse et d'amour pour toutes les créatures, y compris les ennemis, quand il rencontre le sultan, c'est ça qu'il vient faire. Il vient dire à son ennemi, « Mais je t'aime, et je sais que tu m'aimes. » Voilà. Mais ces moments-là, quand ça nous arrive, nous sommes bien obligés de reconnaître que nous sommes habités par une force qui ne vient pas simplement de nos instincts, de nos passions, de nos raisons, mais de Dieu.
Venons-en aux exemples. Et comme à chaque fois, vous voulez commencer par l'exemple d'un saint qui, pour vous, parle de ces deux béatitudes. Et cette fois, vous avez choisi saint Dominique.
Alors, dans saint Dominique, il y a un passage très très beau où il est décrit comme l'homme des béatitudes. Et pourquoi? Parce que ceux qui le voyaient vivre ressentaient dans toutes ses actions, dans toutes ses paroles, un très beau reflet de Jésus. Ils sentaient que cet homme-là était habité par Jésus. On ne pouvait pas douter que ce soit un homme comme les autres, un humain traversé de toutes sortes de passions de violence et d'égoïsme, mais on découvrait en même temps que cet homme était habité par Dieu. Je me souviens de cette expression qui m'avait beaucoup touché. Quand Maurice Clavel est mort, il était paroissien d'Aquin, d'un des petits villages dont j'étais curé. Et à sa mort, je crois que c'est Jean Daniel qui a dû écrire de lui, il était habité. Et je crois que Saint Dominique était un homme habité par la présence de Dieu. Et voilà pourquoi on dit un homme des béatitudes. Dans tout son comportement, dans toutes ses paroles, mêlées à son humanité comme la nôtre, il y avait des traits qui marquaient la présence de Dieu, de l'amour, de la bienveillance, de la miséricorde, de la pureté du cœur. Et notamment, la pureté du cœur était très transparente chez saint Dominique. Ceux qui le voyaient sentaient un homme pur, dont l'âme n'était pas trouble, dont l'âme n'était pas divisée.
Voilà. Ça, c'est le premier exemple. Oui. Vous vouliez aussi nous parler d'Éloi Leclerc.
Oui, alors, j'avais préparé un texte, puis je l'ai égaré, mais je l'ai un peu présent à la mémoire. Éloi Leclerc imagine une conversation.
Redites-nous en deux mots qui est Éloi Leclerc.
Ah oui, bien sûr. Éloi Leclerc, c'est un franciscain qui est parti au service du travail obligatoire en Allemagne, je pense en 42 ou 43, et avec une douzaine d'autres franciscains. Ils se sont retrouvés en usine, et là, ils ne pouvaient pas faire autrement que d'être apôtres de leurs frères, d'enseigner la prière et de les regrouper pour garder l'espérance dans ces moments terribles. Il a été cueilli par la Gestapo et envoyé en camp de concentration à Dachau et Buchenwald, et notamment dans ce train de la mort où l'un des leurs est mort. Ils sont restés les 12 tout le temps ensemble, et je crois qu'ils doivent leur survie au fait que de temps en temps des gens jetaient du pain du haut des ponts pour jeter à ces hommes affamés qui le recueillaient, et chaque fois qu'ils recevaient un morceau, si petit soit-il, il le partageait en 12. Et puis l'un des leurs est mort dans ce voyage. Et les frères ont entonné pour lui le cantique des créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Voilà qui est Éloi Leclerc. Et quand il est revenu de cet enfer, oui, pendant ce voyage, ses frères ont cru un moment, ils déliraient, et ses frères ont vraiment cru qu'il était devenu fou. Et quand il est rentré, très très marqué par cette épreuve, mais il a été capable, lui, de bien l'assimiler, et même, il a été capable d'en parler. Alors que j'étais pendant très longtemps en face d'un homme, pendant 8 ans, en face d'un homme qui avait fait Verdun. Et c'est au jour de sa mort, il avait 103 ans, que j'ai appris qu'il avait fait Verdun. Et c'était un homme d'Isère, il parlait volontiers. Éloi Leclerc a pu parler avec beaucoup de discrétion, mais de cette expérience. Et il a écrit au retour de ce camp un petit livre qui s'appelle « Sagesse d'un pauvre ». Et là, il y a un très bel épisode. François est avec Léon, son confident, frère franciscain aussi, et il s'interroge précisément sur la pureté du cœur, et François va développer longuement en lui disant: mais la pureté du cœur, c'est d'être sans trouble et de nous débarrasser de nous-mêmes pour que nous soyons saisis par Dieu. De nous-mêmes, ça veut dire de nos égoïsmes, parce que égoïsme veut dire moi-même, et se laisser visiter par l'amour qu'est Dieu, amour transcendant, je le répète, et qui nous permet de connaître et d'aimer Dieu, et en même temps, de la même manière et du même amour, de connaître et de nous aimer nous-mêmes, et de connaître et d'aimer les pauvres, et par là, tous les humains. Voilà, je pense que le cœur pur, c'est celui qui est traversé de haut en bas par la pureté et l'amour qu'est Dieu. Et au fond, je vois en disant ça que je suis tout le temps en train de me répéter. De quoi s'agit-il dans les béatitudes ? De laisser l'amour de Dieu nous envahir. Et l'amour de Dieu ne peut prendre de place en nous que dans la mesure où nous faisons un vide. Et il y a cette très belle parole de la petite Thérèse qui me vient à l'esprit. quand je me présenterai devant Dieu, je me présenterai devant lui les mains vides. Et évidemment, le cœur pur, c'est quelqu'un qui a les mains vides et qui va recevoir tout ce que Dieu veut donner. Et qu'est-ce que donne Dieu ? Ben, lui-même, son amour. Et revient toujours ce thème qui m'impressionne tellement, qu'a apporté Jésus, il a apporté Dieu, c'est-à-dire l'amour. Quel amour ? Celui qui va jusqu'à donner sa vie pour ses frères.
Alors, frère Jean-Claude, pardon, excusez-moi, je vous coupe, mais comme je vois que le temps passe, vous aviez un autre exemple qui était deux exemples tirés cette fois de la vie communautaire à propos de la paix et des cœurs purs.
Alors, le premier exemple, c'est une sœur qui faisait un voyage en train et elle s'est trouvée mêlée à un groupe de jeunes qui partaient à une rave party avec leur fourniment de bouteilles et aussi leurs vêtements noirs. Et leurs propos et leurs visages ne reflétaient pas du tout la joie parfaite. Et elle reste très impressionnée par cela. Et elle arrive à la communauté et elle voit le visage des sœurs, le visage de la communauté, reflétant précisément la paix et la joie. Et d'ailleurs, c'est très souvent une question qu'on nous pose. Et je me souviens d'un groupe de scouts de la maîtrise des scouts unitaires de France venu nous visiter et il y a eu un petit moment de rencontre entre eux, les frères et les sœurs. Et un de ces jeunes chefs scouts a posé la question « Mais d'où vient votre joie ?» Et là, c'est la question qui m'a touché. La réponse, je la connais, mais la question m'a beaucoup touché. D'où vient votre joie ? Alors, je crois que le cœur pur, c'est cette joie qui rayonne. Et qui rayonne, je rappelle toujours, du plus profond. Quoi ? Dieu au milieu de nous, Dieu au cœur de notre cœur.
Vous disiez aussi... Hier, en discutant avec vos sœurs en préparation de cette émission, voilà, c'est les coulisses de l'émission, que, donc, pour rappel, votre communauté va mendier sa nourriture. Donc, c'est pas seulement de la nourriture qu'on vous donne, mais vous allez faire du porte-à-porte pour que ce soit une occasion de rencontrer, diverses choses qu'on peut imaginer. Toujours est-il que vous allez donc faire du porte-à-porte pour mendier votre nourriture et que souvent, en fait, les gens vous disent « Vous nous avez apporté la paix ». Est-ce que vous pouvez dire un mot de ça ?
Oui, parce que c'est une expérience très fréquente. Il faut d'abord dire qu'il y a quelquefois l'autre. Hein. Et je me rappelle d'un gag. Une sœur va frapper à une porte et les gens s'écrient « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que vous veniez m'embêter comme ça ?» Et la porte se referme et se claque et se referme. Et puis la porte suivante, la porte s'ouvre tout grand, « Entrez mes sœurs !» Et on entend cette phrase « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que vous veniez me visiter ?» Alors je crois qu'on doit, on risque toujours d'idéaliser. Et puis quand on raconte des histoires, on raconte les bonnes histoires, on raconte les choses où ça a bien marché. Mais je me souviens une fois, avec un petit frère, est allé à Barcelone dans un quartier, et on a décidé de faire les sonnettes de ces immeubles de 15 étages, en sachant pertinemment qu'en appuyant sur une sonnette, sur une sonnette, sur une sonnette, on allait recevoir 20 refus et une réponse. Et je lui ai dit, nous allons faire ça, parce que Jésus est venu parmi nous et il a été rejeté des hommes. Et c'est tellement important que c'est dans le chapitre 1 de Saint Jean. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pu l'éteindre. Et ces trois paroles dans le prologue de Saint Jean disent exactement les relations que nous avons. Nous mendions le pain, alors il y a quantité de refus, mais il y a toujours un accueil stupéfiant. Et où se pose la question, plutôt, vous nous avez donné la paix, avec un nombre de fois pas négligeable, où les gens nous disent après, qu'est-ce qu'a été cette paix ? Et plusieurs fois, ça a été une naissance attendue, les gens disant, un jeune couple disant leur peine, nous n'avons pas d'enfant. Les sœurs promettent leur prière et après, on reçoit, après votre passage, l'enfant a été mis en route. Et puis une autre fois, des frères mendient et ils sont reçus dans une famille très très pauvre de la banlieue de Buenos Aires. Et la maman envoie le petit garçon ou la petite fille acheter deux sachets de paix pour accueillir les deux invités. Acheter deux sachets de paix, de thé, pour accueillir deux invités. Vous comprenez cette question, mais est-ce que nous ne sommes pas fous de dépouiller les pauvres de leur dernière nécessité, du pain nécessaire? Et alors ils ont été reçus. Et puis, ils sont, quelques années plus tard, ils sont repassés dans ce quartier-là et ils ont été arrêtés par des enfants qui avaient grandi, évidemment, et qui leur dit, mais on vous reconnaît, c'est vous qui êtes venus chez vous. Eh bien, après votre passage, papa a retrouvé du travail. Et cette histoire me touche beaucoup. Parce que comment aller mendier chez les pauvres? Il y a presque là un scandale. Mais ce que nous apportons, c'est vraiment la paix. Et quand les gens l'ont reçu, ils savent nous le dire. Et nous savons très très bien que dans ce geste, nous ne donnons la paix que si nous la recevons des autres. Et les autres ne la reçoivent que s'ils la reçoivent de nous. La paix est forcément un échange entre deux cœurs.
Pour finir, frère Jean-Claude, est-ce que vous revient un visage parmi tous ceux que vous avez croisés dans votre vie? C'est une question que je vous pose régulièrement dans cette deuxième partie, à propos des béatitudes, qui pour vous incarne, ou en tout cas est un beau reflet de ces deux béatitudes. Et si oui, lequel?
Ben, tout d'un coup, tu me dis ça, mais ça me vient à l'instant. Le visage, car c'est de ça dont il est question, du père Éloi Leclerc. Il est mort, je crois qu'il y a maintenant un an et demi, deux ans, à Saint-Malo, chez les petites sœurs des pauvres. Et comme nous avions une communauté qui a été quelque temps à Rennes, nous sommes allés le voir. Et j'avais le grand désir de revoir mon ancien professeur, pour lequel j'avais toujours gardé une grande, grande affection. Et ce qui frappait en rencontrant le père Éloi, c'était la sérénité et la paix de son visage. Je le vois encore, avec ses yeux bleus, très très clairs, un sourire très bon, une parole un petit peu hésitante, et puis des propos d'une simplicité extrême. Je pourrais presque le faire entendre ici. On n'a pas le temps. Hein.
Non.
Bon, c'est dommage. Mais j'ai gardé sur mon iPhone quelques paroles qu'il nous avait dites. C'était mon ancien professeur. Et discrètement, je l'ai mis en route. Et puis tout d'un coup, j'ai eu honte quand même. On ne peut pas faire ça à un ancien professeur sans lui avoir demandé la permission. Et au bout d'une minute, j'ai coupé. Mais maintenant, je regrette énormément de ne pas avoir tout entendu. Mais c'était vraiment, sortant de cet homme, des paroles d'une douceur et d'une force incroyables, disant la paix, et avec ce mot que la sœur Marie répétait dans notre cherche hier soir, que faut-il pour vivre dans ce temps et avoir la paix? Et le père Éloi répond, ma petite sœur, la foi, une foi chevillée au corps. Et ça, c'est tout le père Éloi, un homme de foi, qui a traversé les épreuves des camps de concentration en gardant la foi. Et cette foi illumine son visage d'une grande douceur et d'une grande paix.
Merci beaucoup, frère Jean-Claude. On va faire une deuxième pause et puis on vous retrouve après pour, on va dire, un axe de progression spirituelle à l'occasion de ce carême sur cette béatitude et deux, trois conseils qui l'accompagnent.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin, donc sur les béatitudes, deux béatitudes aujourd'hui, avec le frère Jean-Claude, toujours franciscain, cofondateur de la communauté de l'Agneau. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Pour finir cette émission, vous aviez. Il s'agit de nous donner quelques conseils spirituels pour essayer d'entrer dans ces deux béatitudes et de les faire nôtres. Alors commençons par les cœurs purs. Quel serait votre grand conseil de progression spirituelle ?
Alors,
l'examen de conscience, j'ai bien compris. L'examen de conscience, compris.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ce que je ne sais pas faire d'ailleurs, hein, mais que par la force des choses je fais, mais toujours au dernier moment, je vais me confesser. Et puis j'écoute ce qui sort de mon cœur et je le dis à celui qui veut bien m'écouter. Mais je n'ai jamais su faire autrement. Donc je suis l'homme de l'instant présent. Ce n'est pas très commode, mais c'est comme ça. Alors, heureux les cœurs purs. Je suis persuadé qu'il faut vraiment relire cette béatitude tellement simple, prise de l'Ancien Testament, on l'a vu tout à l'heure, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et bien sûr, intégrer cette parole, la mettre dans notre bibliothèque intérieure, non pas comme un livre qui dort, mais comme un livre qu'on aime bien et qu'on sait sortir au bon moment pour relire tel ou tel passage. Donc cela, mettez dans votre mémoire ce texte. Et puis, cherchez à le comprendre. Comment ? En vérifiant tout de suite dans votre vie ce que ce texte vous dit. Avec cette question, est-ce que mon cœur est pur ? Est-ce qu'il ne l'est pas ? Et avec cette réponse, ah oui, je désire la pureté, mais ô combien mon cœur est-il impur ? Voilà. Il me semble que cette pensée-là m'accompagne tout le temps. Je connais mon impureté dans tous les domaines. Je faisais allusion au ressentiment, à la violence, à la haine. Mais la gourmandise, la vanité, la lâcheté sont tout le temps là, la sensualité aussi. C'est un combat perpétuel. Alors en disant ça, mon cœur n'est pas complètement pur, puisque je suis toujours en train de regarder autre chose que la beauté et la bonté de Dieu. Mon cœur est divisé. Et alors, ça me paraît là, le béaba, c'est la fameuse question, qui suis-je ? Celle que nous envoyait déjà Socrate de son temps, qui suis-je ? Et l'autre question que nous nous posons tout le temps, que je me pose tout le temps à propos de la prédication, même si je ne réponds pas explicitement à chaque fois, qui es-tu mon Dieu et qui suis-je ? Vous rappelant que c'était la prière qu'il faisait saint François avant de recevoir la marque de Jésus dans son cœur et dans son corps. Donc, premier conseil, mémorisez et puis vérifiez l'état dans lequel vous êtes par rapport à cet appel.
Même chose pour les artisans de paix, même exercice. Alors, tout simplement.
Oui, pour tout.
C'est simple avec vous en fait. Hein.
Oui, absolument pour
méditer
tout.
Méditer l'évangile et puis voyez ce qu'il en sort, c'est ça c'est...
Exactement. Et dans la communauté de l'agneau, on le pratique de telle manière qu'un jour le cardinal Barbarin présentait les petites sœurs en disant « Ce sont des sœurs qui apprennent par cœur l'évangile ». Et quand il a dit ça, mais quand j'ai entendu ça, ça m'a fait une grande joie. Ah oui, c'est tout à fait ce que nous voulons. C'est tout à fait ce que nous devons. Nous avons dans les mains la parole de Dieu. Dans la mesure où ce mot est vrai pour nous, on ne peut pas faire autrement que de la saisir, de se l'approprier, qu'elle devienne nôtre, qu'elle s'imprime au plus profond de notre être, pour devenir l'âme de notre âme, le cœur de notre cœur, les mains de nos mains, pour faire le bien.
Donc ça, on va dire, c'est les deux grands... Comment dire, c'est le grand conseil que vous donnez. Est-ce que par hasard, vous en avez des plus petits pour nous aider à entrer dans ces béatitudes, je ne sais pas, qui pourraient accompagner de manière un peu plus... concrète ou quotidienne, une fois qu'on a fait cette lecture, cette méditation et cet examen de conscience, d'installer dans nos vies ces, c'est d'essayer d'avoir ce cœur pur ou d'être artisan de paix.
En entendant cette question, hein, je me dis, mais ça aussi, vous allez me dire que je me répète tout le temps, il faut mettre en pratique, hein, selon le pendant des béatitudes, à la fin de ce grand discours de Jésus, c'est ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entrent dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Alors, c'est en forgeant que devient forgeron, c'est en ayant le cœur pur qu'on devient un cœur pur. Et comment? Alors, dans la multitude des actes d'une journée, je peux toujours devant n'importe quelle tentation de violence, de gourmandise, de vengeance, me reprendre et m'arrêter. Et il faut le faire évidemment dans des toutes petites choses où nous avons quelque chance de réussir. Mais il me semble que ma vie, même quand j'étais enfant, était déjà animée par ce mouvement-là.
Pour les artisans de paix, pour devenir un artisan de paix, quels pourraient être ces... Imaginez le quotidien de quelqu'un qui travaille, d'une mère de famille ou, voilà, ou d'une personne malade. Comment installer petit à petit ce prince de la paix dans nos vies quand il y a parfois autant de divisions à l'intérieur même de nos familles ou dans nos lieux de vie?
D'abord, je pense que c'est un très très long travail. Et j'ai là un exemple qui me touche beaucoup. C'est un homme, un ami, qui a eu toutes sortes de malheurs dans sa vie et qui maintenant prend de l'âge, sent la vieillesse gagner dans son corps et dans son esprit, et qui s'interroge à mes yeux d'une manière très touchante sur l'échec de son existence, son ménage cassé, et puis en disant « mais qu'est-ce que je fais ?» Je fais fuir mes amis. Et en écoutant ces confidences, j'ai été très touché, mais profondément, en me disant, mon Dieu, mais cet homme est sur le vrai chemin de la vie spirituelle. Il se connaît et il aspire au vrai bonheur. Alors, mais c'est à partir de ce constat, que faire? Oui. Regardez humblement comme vous êtes. Et puis, il y a eu une dispute entre vous, et c'était l'exemple que donnait la sœur Marie, hein, en disant au jeune couple, elle le répète tout le temps, la première dispute...
Sœur Marie, c'est donc la cofondatrice de la communauté.
Oui, tout à fait. Ouais. Et elle dit, la première dispute chez un jeune couple, ce n'est pas le moment de se séparer, c'est le moment de passer au véritable amour. Qui est quoi? Évidemment, je vous dis toujours les mêmes choses, qui est finalement l'amour des ennemis. Tant qu'on n'est pas arrivé là, on n'est en fait pas dans la charité. On est dans la sympathie ou l'antipathie. Mais pour être... Attends donc, pour y être, il faut vouloir, ça me paraît tellement important, voilà ce que je veux, voilà ce que je cherche, voilà ce que je veux de tout mon cœur. Et je m'excuse de dire ça, mais je suis convaincu que ce qui détermine le plus le dessein de notre existence, c'est ce que nous voulons vraiment. Alors Jean-Claude, qu'est-ce que tu veux? Eh bien oui, je veux le cœur pur. Oui, je veux la paix. Et à mon sens, c'est ce travail sur soi-même qui est le plus important. Et puis après... des petits gestes de réconciliation que l'on peut faire après une dispute, c'est tellement important. Ou bien ce que dit le pape François, qui est un conseil tellement pratique lui aussi qu'il donne, n'oubliez jamais, s'il vous plaît, pardon, merci. Je crois qu'il faut absolument pratiquer ça, qui à la fois donne le cœur pur et fait la paix. N'oubliez jamais de dire, s'il vous plaît, pardon, merci.
Eh ben, merci beaucoup, frère Jean-Claude, pour cette cinquième émission sur ces deux béatitudes que je rappelle. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On vous retrouve lundi prochain pour la dernière émission de cette série de Carême. Vous allez nous manquer, hein. Il faudra nous réinviter chez vous. Voilà, et pour l'entrée dans cette la Semaine Sainte de cette année. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.